Bonjour Philippe Subra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique de l'aménagement du territoire, auteur en 2016 de Zone à défendre, de Sivens à Notre-Dame-des-Landes aux éditions de l'Aube. Alors après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la fin de la trêve hivernale qui est passée donc le 31 mars dernier, les forces de l'ordre devraient intervenir très vite, on parle de lundi prochain, pour mettre fin à l'occupation illégale. Il ne s'agit pas d'évacuation mais bien d'expulsion. On sait qu'il reste entre 150 et 200 personnes sur place. Tout le monde ne sera pas expulsé. L'opération, Philippe Subra, devrait se passer sans trop de problèmes. Le gouvernement a fait le tri entre les zadistes.
Alors, il a fait le tri, mais surtout dans la période précédente, c'est-à-dire depuis l'abandon du projet en janvier, il a réussi à diviser les opposants. D'abord, en séparant les opposants classiques des zadistes avec l'abandon du projet d'aéroport, et puis dans un deuxième temps, en engageant un processus de régularisation vis-à-vis des zadistes, de ceux parmi les zadistes qui ont des projets économiques, qui peuvent s'insérer dans le territoire. Et donc ça a fini par créer un clivage très très fort au sein des zadistes eux-mêmes. Et donc les gens qu'il s'agit aujourd'hui d'expulser, c'est quelques dizaines de personnes, on parle de 50 à 80, ce qui n'est pas énorme. Et donc l'opération, techniquement, ne devrait pas poser de problème énorme.
Donc si je vous entends bien, il n'y a plus de solidarité entre les zadistes aujourd'hui.
Il y a eu des débats très durs. Des noms d'oiseaux échangés. Les modérés sont accusés par les radicaux d'être de gentils alternatifs inoffensifs ou des auto-entrepreneurs du business contestataire et les radicaux d'être des gens qui veulent faire une révolution tout seuls.
Jusqu'au boutiste,
voilà.
Ces 50-80 personnes que le gouvernement veut expulser, qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce que ce sont ceux qui s'appellent encore Camille, par exemple?
Tous s'appelaient Camille.
Oui.
Donc c'est pas ça qui va les distinguer.
Sauf qu'aujourd'hui il faut s'identifier pour légaliser la situation.
Exactement. Et cela refuse de le faire. Donc les arguments juridiques que leurs avocats ont essayé de mettre en avant pour dénoncer le caractère illégal des expulsions risquent de ne pas fonctionner. Donc on ne peut pas à la fois refuser l'ordre républicain et la loi et puis s'en saisir sans remplir les conditions.
Ces expulsions, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires dans la ZAD, Philippe Subra? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne pourrait pas tout simplement laisser faire? On a abandonné le projet.
Ouais. Elles sont politiquement nécessaires. C'est-à-dire que lorsque le projet a été abandonné en janvier, le gouvernement a pris le risque d'être accusé de faiblesse, de reculer devant des actions illégales. Et donc il doit absolument envoyer un message de fermeté. Il a fait aussi à Bure, hein, très clairement, en empêchant de manière préventive
le 22 février dernier,
voilà, la constitution d'une autre ZAD. Et donc c'est du point de vue politique que c'est absolument indispensable. Et puis, les habitants de la zone, y compris les opposants au projet d'aéroport, ne comprendraient pas que la ZAD telle qu'elle a existé avec ses débordements puisse continuer à survivre.
À quoi elle ressemble aujourd'hui ?
C'est un endroit assez spécial, d'abord très préservé. Le projet d'aéroport, paradoxalement, a contribué à protéger cette zone de la périurbanisation, de l'arrivée de citadins. C'est un endroit très vide parce que 200 personnes sur 1650 hectares, c'est-à-dire un sixième de Paris intramuros, c'est quand même très très peu de monde, avec des endroits très bariolés, très très vivants, des expérimentations de vie alternative qui sont assez intéressantes. Donc une sorte de lieu alternatif et en même temps aujourd'hui de lieu très divisé.
C'est ça que vous écriviez déjà en 2016, avant même l'abandon du projet dans votre ouvrage, Philippe Subra. La ZAD, la zone à défendre, deviendrait une zone d'autonomie à défendre. Est-ce que c'est ça, un projet de société alternative finalement, qui verrait le jour ici, sur cette zone de Notre-Dame-des-Landes?
Qui aurait pu, hein, parce que là on en est plus du tout là. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement a vraiment intérêt à montrer sa fermeté et à envoyer un signal face à toutes les contestations radicales qui peuvent exister, qui vont être sur d'autres projets d'aménagement, on l'a vu avec Bure, mais qui peuvent être sur d'autres sujets également.
Alors quand on voit ceux qui veulent légaliser leur situation, qui proposent d'ouvrir des fermes coopératives, des boulangeries, des chambres d'hôtes, c'est quand même un modèle de société alternative, ça non, un peu?
Alors c'est entre les deux, c'est-à-dire que la diffusion de certaines innovations sociales dans la société passe par une forme de normalisation. Il n'y a pas incompatibilité, au contraire, c'est par une forme de normalisation qu'on peut diffuser. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans un certain nombre de territoires après les années après mai 68,
où les néo-ruraux,
voilà, ont apporté un autre mode de vie, mais aussi un sang neuf dans des zones qui étaient en déclin démographique et économique.
La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est donc un peu la ZAD mère, si on veut, hein, celle qui est fait des petits. C'est pour ça aussi que ce que le lieu va devenir est un enjeu, Philippe Subrat, aussi bien pour le gouvernement d'ailleurs que pour les ZADistes.
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce caractère de lieu d'expérimentation à la pointe de l'innovation va perdurer. C'est l'espoir des ZADistes qui veulent rester, mais ce n'est pas du tout certain. Et je ne suis pas sûr non plus, j'irais peut-être contrairement à ce que je pensais il y a 2 ans, qu'il va y avoir une diffusion du phénomène. Parce que les conditions de mise en œuvre et de survie d'une ZAD sont très particulières. Et on a bien vu à Bure, par exemple, qu'elles n'étaient pas réunies. Il y a des conditions de terrain. Une ZAD, ça doit pouvoir se défendre. Et donc, le bocage ou la forêt, c'est favorable. Une petite ZAD a beaucoup plus de mal à se défendre parce qu'elle est beaucoup plus facile à investir par les forces de l'ordre. Il faut des soutiens extérieurs. Il faut aussi la maladresse ou la passivité du gouvernement, ce qui a été le cas pour Notre-Dame-des-Landes pendant 20 ans. En tout cas 10 ans depuis l'installation des premiers ZADistes, et je ne suis pas sûr que ces conditions vont tellement se reproduire. Par contre, je pense que c'est le signe d'une radicalisation d'un certain nombre de luttes, qui ne sont pas forcément des luttes sur le territoire, ou sur l'aménagement du territoire, ou sur l'écologie, qui peuvent être des luttes étudiantes, qui peuvent être des luttes ouvrières, qui peuvent être des luttes réactionnaires. On peut très bien imaginer que des opposants à l'avortement occupent durablement une clinique et qu'il faille les évacuer. Et donc ça nécessite de la part des forces de l'ordre une réflexion sur la façon de traiter ce type de lutte en évitant des dérapages, en évitant des morts d'hommes comme à Sivens et en évitant de donner au gouvernement l'impression que le gouvernement est brutal.
Philippe Subrat, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter. C'est ce qu'on vérifiera donc dans les jours qui viennent, hein, avec ces expulsions sur la ZAD de Nantes. Je rappelle que vous êtes géographe spécialiste de géopolitique d'aménagement du territoire, auteur de Zone à défendre aux éditions de l'Aube. Merci encore, bonne journée à vous.